Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Les années lycées, c'est une série d'histoires racontées par Delphine Saltel dans un lycée bilingue des beaux quartiers parisiens et dans un lycée de Bobigny, situé dans le très sensible, à tous les sens du terme, 93, en Île-de-France. Des élèves y narrent des épisodes marquants de leur vie, qui parlent de leur quotidien, qui évoquent leur monde et leurs préoccupations à hauteur d'ados. Aujourd'hui, les trois histoires que vous allez entendre sont liées par une certaine idée de la solitude. Dans un livre qui s'appelle justement « Le sentiment de solitude chez l'adolescent et l'enfant », Sébastien Dupont décrit les représentations auxquelles sont associés ce sentiment à différents âges, selon la psychologie cognitive. Entre 11 et 16 ans, les constantes sont le sentiment d'être trahi dans sa confiance par un ami, de n'avoir personne à qui se confier, de se sentir socialement à part, différent, le sentiment de n'appartenir à rien ni à personne, le manque d'un groupe auquel s'identifier, le sentiment d'être dénigré, inexistant aux yeux des autres, sans importance, impropre à être aimé. À partir de 16-17 ans, il faudra ajouter, pour décrire l'effet que cela fait de se sentir seul, le sentiment de n'avoir personne à qui parler de questions existentielles, l'incompréhension, le sentiment qu'on n'arrivera jamais à trouver quelqu'un avec qui avoir des relations intimes, celui d'être socialement marginal. Et beaucoup plus tôt, dans l'enfance, le sentiment de se sentir seul est lié à celui de l'abandon de ses parents, au sentiment de n'avoir personne vers qui se tourner pour demander de l'aide et de n'avoir personne à qui parler ou même personne comme ami. Je précise qu'aucune des trois jeunes femmes que nous allons entendre n'a jamais raconté ce moment douloureux à ses parents et que deux d'entre elles ont précisément souhaité nous en parler pour qu'ils en soient informés indirectement donc. Les années lycées, épisode 4, à l'ombre des jeunes filles en pleurs, Delphine Saltel.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. Et c'est comme ça que les choses arrivent.
Alors, j'étais en 6e dans un collège assez bling-bling de Paris. C'était la première fois que je sortais avec un garçon. Il s'appelait Guillaume, on était dans le même groupe d'amis. C'était le genre un peu populaire du collège où tout le monde l'aimait bien, le trouvait beau gosse. Et on est sortis ensemble trois mois. Et donc, il m'a larguée après 3 mois en disant, en prétextant que il aimait ma meilleure copine. Et donc, ça a été un choc. Je me suis dit, il m'a trahi. Donc, ça a été horrible. J'ai mis un peu de temps à m'en remettre, mais bon. Après, comme ma meilleure amie ne voulait pas sortir avec lui alors qu'elle avait eu des propositions, je me suis dit que c'était pas un mec bien et qu'il m'avait trahi et que fallait que je l'oublie et que j'avais plus rien à faire avec lui. La 5e passe ainsi que la 4e, tout se passe très bien. Et début 3e, Guillaume me renvoie un message sur WhatsApp et me dit « Coucou Emma, ça va ?» Et à ce moment-là, dans ma tête, je me dis « Mais pourquoi il me reparle? Est-ce qu'il est toujours amoureux de moi ?» Et c'est là où tout s'effondre, entre guillemets, parce que je me dis que en fait, je ne l'ai jamais oublié et qu'il suffit qu'il m'envoie un message pour qu'à partir de ce moment-là, je retombe amoureuse de lui. Et je mets du temps et je réponds. Et on commence à parler beaucoup, beaucoup, tous les soirs, par message et par appel. Donc il me dit « t'es trop belle, t'as pas changé, t'es encore mieux qu'avant ». Même s'il m'avait déjà trahi une fois, je me suis dit « bon, il a dû regretter ». Et donc voilà, il me rassure, il me dit qu'en effet, il a pas trouvé de fille aussi bien que moi, que je suis la plus belle, la plus gentille, la plus drôle. Il me fait des tonnes de compliments, mais surtout sur mon physique. En 3e, je me sens réellement moche, donc j'ai pas confiance en moi et ça me rassure de me dire que bah lui, quand il me voit tous les jours à l'école, il me trouve belle. À ce moment-là, je me sens contente, je me dis qu'en fait, c'est l'homme de ma vie, que on va se marier, on est sortis ensemble en 6e, on va recommencer en 3e, on va rester des années ensemble et que ce sera mon amour de jeunesse, quoi. Et toutes mes copines me disent, mais t'es malade, c'est un fou, tu vas pas ressortir avec ton ex, c'est un beau parleur, il sait, il dit tout ça juste pour t'amadouer, juste pour que tu ressortes avec lui parce qu'il t'aime pas réellement. À ce moment-là, je pense qu'elles sont jalouses, qu'elles veulent juste pas que je sorte avec lui. Et donc, je les écoute pas du tout, je fais ma vie, je leur raconte plus rien. Je leur raconte même pas comment ça se passe, alors que d'habitude, entre copines, on se raconte tout. Et je me renferme un peu dans une sorte de bulle. Je me dis, c'est lui et moi, et il y aura personne d'autre, en fait. Alors, on sort pas ensemble publiquement, officiellement, entre guillemets. Je voulais pas du tout. Surtout que ça m'intéressait pas après d'avoir toutes les critiques de mes copines, c'était pas du tout mon but. Et ensuite, passe un ou deux mois, je ne me souviens plus, et il commence à m'envoyer des messages un peu plus insistants en disant « T'étais vraiment belle aujourd'hui, ton jean il était grave beau, t'es vraiment mal habillée, est-ce que tu voudrais pas m'envoyer des photos de toi dénudée ?» Et je lui dis « Non, écoute, j'ai vraiment pas envie, je ne suis pas comme ça, et je le ferai pas. » J'ai toujours été prévenue par ma mère, qui m'a toujours dit ne jamais te laisser embobiner par les garçons. Elle m'a toujours dit ça parce qu'elle est avocate au droit de la famille et au pénal, et elle avait beaucoup de procès à cette époque, et même encore aujourd'hui, de petites gamines qui se faisaient harceler parce que leurs photos dénudées étaient balancées sur le net, sur les groupes de classe, partout. Et donc justement, elle m'a toujours dit « fais attention et viens m'en parler si t'as un problème ». Je me disais, arrête maman, c'est bon, je sais très bien ce que c'est, je ferai pas cette erreur-là, tu peux arrêter de me saouler avec ça. Donc ça devenait régulier de plus en plus, tous les soirs il me demandait, vas-y s'il te plaît, envoie-moi toi en soutif, s'il te plaît, envoie-moi toi en short, envoie-moi où tu mets tes mains sur tes seins, enfin des trucs débiles quoi. Donc je lui ai dit non, j'aime pas faire ça, je le ferai pas. C'est à ce moment-là où il m'a dit, c'est pour concrétiser notre amour. À force de me recevoir ce message, je me dis que ma mère et mes copines sont folles et qu'elle me dit de pas sortir avec lui alors qu'en fait c'est un mec bien, qui veut concrétiser notre amour, que ma mère elle est complètement débile et que ça arrive peut-être à ses clients parce que ils sont dans un autre milieu, que c'est pas les mêmes mecs, qu'ils viennent pas de nos quartiers quoi. Eux, ils vont faire circuler ça parce que donc c'est affaire de leur vie, ça m'arrivera jamais, il fera jamais ça. Et donc au fur et à mesure, je commence à envoyer des photos. J'envoie une photo, je me souviens, enfin une, deux, trois photos par soir. Et après, il me dit « Ah, t'es vraiment trop belle, s'il te plaît, continue. » Donc j'étais... Il y avait quelques photos où j'étais toute nue, mais il n'y avait rien de... Les autres, j'étais en short ou alors t-shirt crop top très court. Enfin, c'était pas des photos horribles. Donc c'était le soir, on allait prendre ma douche. J'allais dans la salle de bain, enfin normalement, quoi. Et je prenais une photo, hop, je lui envoyais. Après, j'allais dans ma douche, donc je mettais en pause mon téléphone. Et il m'envoyait d'autres messages. Il m'a dit, continue, t'es vraiment la plus belle. Il n'y a pas d'autres filles qui ont des formes comme toi et des gros seins et tout. Tu poses trop bien devant la caméra alors que ridicule. Pour moi, je me disais, ah, je suis moche, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'envoies ça? Et d'une part, je recevais des messages où il me disait, ouais, t'es vraiment magnifique, que des compliments qui mettent à l'aise. Et il dit, bon, bah, c'est bon pour ce soir et tout, merci beaucoup et tout, nanana. Comme si je rendais en fait un service, quoi. J'étais, je sais pas. Et donc, je me dis, bon, bah, ça va, il a été content. En fait, je voulais lui faire plaisir et qu'il se dise, bon, bah, ça y est, c'est ma copine, elle est à moi, je resterai avec elle, quoi. Et le lendemain, il me disait la même chose, j'envoyais deux, trois photos et j'ai continué pendant un mois sur WhatsApp. Donc il pouvait enregistrer les photos sans aucun problème. Et c'était dans sa pellicule de téléphone, automatiquement. Au collège, on est toujours aussi proches, toujours aussi amis, copains. Mais quand il est avec ses copains, il m'ignore et ça commence à devenir bizarre. Quand je passe dans les couloirs et que ses copains, que je connais ouais, très bien, ils me regardent bizarrement, ils rigolent. Je leur dis « mais qu'est-ce qu'il y a ?» Ils me disent « non mais il n'y a rien ». Et je me dis, il y a quelque chose qui va pas. Mais je ne doute pas une seconde qu'il a pu faire quelque chose. Je ne doute pas de lui du tout, même pas à ce moment-là. Et un jour, j'étais chez moi, c'était un samedi, je regarde un film avec ma mère, quand je reçois un appel d'un de mes meilleurs copains. Et qui me dit, écoute, c'est quoi ces photos ? Je lui dis de quoi tu me parles et il me dit va voir sur le groupe de classe et dis-moi tout de suite ce que c'est. Je regarde sur le groupe de classe, c'était un groupe un peu que de mecs, de filles, du même groupe WhatsApp où tous nos copains et nos copines en commun, on était tous dessus et on parlait de vidéos drôles, de ce qu'on avait fait dans la journée, de potins, de gossip, de trucs de troisième quoi. Et je vois toutes mes photos dessus. Bon, d'accord. Et j'étais anéantie. Je me suis demandé ce que j'allais faire de ma vie. Pour moi, c'était horrible. Je dis absolument rien. Je ne montre rien à mes parents. Je fais comme si tout allait bien. Et le lundi matin, quand j'arrive en cours à 10h, tout le monde me regarde. J'ai l'impression qu'on me voit nue, en fait. J'entends des gens parler derrière moi. J'entends des gens qui me disent « Mais pourquoi elle a fait ça? Elle est vraiment dégueulasse. Elle est vraiment crade. Pourquoi elle fait ça? Surtout à lui. C'est vraiment une pute. » Et je réponds pas. Et plus personne ne s'assoit à côté de moi en cours. Plus personne ne me parle. Et mes copines ne me parlent pas. Elles font comme si je n'existais pas. J'ai essayé, je m'en souviendrai même, dans la salle 8, de parler à ma meilleure copine. Rien n'y fait. Ouais, t'aurais dû me le dire, etc. Je t'avais prévenu, bien fait pour toi. Et je me dis, ouais, ok, bon, ça passera pas. Lui, je lui parle pas. Je le déteste. J'ai envie de le tuer à ce moment-là. Il fait comme si j'étais pas là et m'ignore. Complètement. Et au fil des jours, tout le monde m'ignore. Tous ceux que je connaissais, tous ceux que j'adorais m'ignorent. Il y en a qui rigolent quand je passe. J'entends des gens parler derrière moi. Enfin, vraiment, c'était horrible. Et j'en ai parlé à personne, ni ma sœur, ni mes parents, ni ma grand-mère, ni personne. J'en parle à personne. J'étais vraiment toute seule. Et au bout de 2 mois, je décide d'en parler quand même à ma professeure de maths. Et ça a été vers elle que je me suis tournée parce que je savais qu'elle allait pas me juger. Je voulais pas en parler à mes grands-parents parce que je savais qu'ils allaient en parler à mes parents dans tous les cas. Donc c'était pour moi, elle, la seule issue et je lui fais confiance. Et je décide d'aller la voir et je lui dis « Écoutez, madame, ça va plus, il faut que vous m'aidiez. » Et elle me dit « Oui, j'ai vu que ça allait pas, dis-moi ce qui se passe, etc. » Et elle va punir Guillaume, elle va lui demander d'effacer. Elle lui a hurlé dessus, je me souviens, il va effacer. Et depuis, j'ai plus de problème. Trois ans après, donc je suis en première. Donc après ces 3 ans, donc je me suis toujours dit que, enfin, tout était effacé, ça s'intéressait plus personne. Et il y a 10 jours, je me suis retrouvée face à un garçon que je connais. Je disais bonjour dans le couloir, rien de fou, hein, et qui a montré une de ses photos et qui m'a dit « Ah, t'aurais pu me faire, dis donc, avec tous ses copains derrière qui rigolaient pour se moquer de moi, en fait. » Droit dans mes yeux, il m'a dit ça. Et à ce moment-là, je me dis, mais c'est une blague ou quoi? Ça, c'était il y a 3 ans. Pourquoi maintenant on revient m'en parler, en fait? Et le fait qu'il les a gardés malgré ces 3 ans, il les a toujours, il les montre toujours autant, il rigole avec ses copains. Enfin, c'est complètement, enfin, c'est absurde, en fait. Donc, ces photos, elles sont tellement propagées un peu partout, avec tout le monde, juste dû à Guillaume, que j'ai demandé à ce garçon de les supprimer. Et je sais qu'il les a supprimées. Mais je pense que c'est méthodiquement impossible d'enlever toute trace et qu'il n'y ait plus rien de ces photos. Parce que si c'est pas un tel qui l'a, c'est les autres. Ça s'envoie sur WhatsApp, ça s'envoie sur Snapchat, c'est très très vite. Et je me dis qu'elles vont circuler jusqu'à ma mort. Si je fais un métier où je suis médiatisée, bah, ils les ressortiront. Donc j'ai peur qu'elles soient toujours quelque part, qu'il y ait toujours quelqu'un qui les a.
En 2007, moi et ma famille, nous sommes venus en France. On est arrivé d'Haïti. Je devais avoir à peu près 8 ans. On était dans un studio à Bobigny. On s'est installé avec mes parents et mon frère Damien, qui a 6 ans de plus que moi. Un soir, après le dîner, tout le monde est parti dormir. Et un moment après, mon frère il me dit « Réveille-toi, réveille-toi. » Il s'est passé quelque chose, réveille-toi. Viens, on y va dans le salon. Je suis partie dans le salon. Et là, il me dit « Il y a eu un tremblement de terre en Haïti. Viens regarder, viens regarder. » Je regarde, les personnes mortes sous les décombres, toute une population détruite à cause d'un séisme. J'avais pas les mots. Directement, j'ai pensé à ma grand-mère. Et dans ma tête, directement, j'ai tout de suite compris que elle était plus là. J'ai compris que j'avais perdu des membres de ma famille, quelques amis, mes anciens profs. Et donc, à plusieurs tentatives, on a appelé, mais on pouvait pas téléphoner parce que la communication n'était pas possible. Et donc, mes parents, directement sur le coup, ils ont décidé de partir pour vraiment voir ce qui s'est passé. En fait, mon petit frère, il avait 2 ans et donc il pouvait pas le laisser seul. Et donc, ma mère a dit, je suis obligée de partir avec le petit. On va laisser Damien et moi à la maison avec un oncle à moi. Donc, c'était un oncle à moi qui devait nous rejoindre pour nous surveiller de tout ce qu'on avait besoin. Mais il n'est jamais venu. Et donc, moi et Damien, on devait se débrouiller tout seul, comme des grands. Et la plupart du temps, on partait pas à l'école parce que on n'avait plus envie de rien, en fait, que de rester dans la maison. On se mettait devant l'ordinateur et on regardait les vidéos en boucle. Et donc, l'image qui m'a marqué le plus, c'est quand mes parents étaient en Haïti. Ils nous ont envoyé une photo où notre maison là-bas était détruite, complètement détruite. Et cette maison-là comptait vraiment pour moi parce que c'était une maison de famille où tout le monde se réunissait pour des repas, des soirées, des anniversaires, des fêtes de coutume. Et donc, c'est ma grand-mère qui était sous les décombres de cette maison. On a fait 1 mois sans parents. Et donc, la veille où mes parents allaient rentrer, mon frère m'a dit que le tremblement de terre l'avait fait un choc, qu'il se sentait mal, qu'il ne voulait plus rester dans la maison. Il voulait partir, quoi. Et je me suis dit, mais non, tu ne peux pas partir comme ça, en fait. Il y a les parents, ils vont s'inquiéter, tu vas aller dormir où? Elle dit, non, mais t'inquiète pas, je sais très bien où je vais. Et je dis, ah, mais vas-y, demain, je vais te faire un petit déjeuner, je te fais des fruits et tout. Après, le lendemain matin, je me réveille, je pars prendre une douche, mais il n'était pas là. Je me suis dit, ah, ça se trouve, il est parti acheter des croissants, du pain au chocolat, pour qu'on puisse prendre le petit déjeuner. J'attends, les heures passent, je fais ma douche. Comme je vois qu'il vient pas, je cuisine, je regarde la télé. Après, je lis un livre. Le soir passe, le soir. Et il vient pas, il rentre pas. Et à ce moment, il avait pas de téléphone. Et donc, je pouvais pas l'appeler. Et là, je croyais pas. Il est vraiment parti. Et depuis ce jour-là, j'ai pas eu de nouvelles. Je me suis sentie vraiment seule, délaissée. Je me sentais vraiment mal parce que je me suis dit j'aurais pu le retenir en fait. Pour moi, quand il est parti, en fait, ça a été un déclic parce que c'était le seul frère qui me restait, qui était né en Haïti comme moi, où on a passé des moments magnifiques. Malgré notre écart d'âge, on se partageait tout, on donnait des bons conseils, Il m'expliquait plein de choses de la vie. Il me racontait sa vie, qu'est-ce qu'il va faire plus tard. Et je lui racontais la mienne, même si elle n'était pas intéressante. C'est plein de petits moments comme ça, plein de petits détails en fait, qui font que je pense toujours à lui. Je peux pas penser à autre chose. J'aimerais le revoir, prendre contact avec lui, qu'il soit vraiment près de moi.
Depuis que je suis en seconde, tous les vendredis soirs, je vais dans la même boîte sur les Champs-Élysées avec les mêmes amis, les mêmes personnes que je côtoie. C'est le lieu où on s'échange tous les derniers secrets, les potins, les... Voilà, c'est une habitude d'y aller. C'était un soir de septembre 2018, donc j'avais 17 ans. Et un vendredi soir, j'y suis allée comme d'habitude avec les mêmes personnes. On avait pris la même table que d'habitude. J'étais entourée vraiment de personnes de confiance que j'aime. Donc je dansais, je m'amusais, je rigolais et j'ai pris un verre de vodka jus de pomme. Enfin, c'est ma boisson préférée en boîte en général. Deux secondes après, je prends une gorgée de mon verre. Une deuxième, une troisième. Et là, ma tête commence à tourner d'un coup. Je me sens plus du tout moi-même. Je vois tout tourner. Et c'est là que je me suis dit qu'il y avait un vrai problème. C'était pas du tout l'alcool, c'était pas du tout l'effet de l'alcool, parce que c'est pas une moitié d'un verre qui m'aurait pu me mettre dans cet état-là. Je me suis dit, est-ce que je me suis pas fait droguer ? Le GHB, j'en avais entendu parler, mais des histoires très glauques de filles qui se faisaient droguer à des festivals ou à des soirées ou en boîte et qui ensuite se faisaient violer. Voilà, donc je savais, j'étais vraiment prévenue grâce à la prévention que ma mère m'avait faite. Du coup, qui aurait pu me faire ça ? J'ai regardé autour de moi, j'arrivais même plus à distinguer les personnes. Je commence à me rendre compte du fait que si quelqu'un m'a droguée, c'est forcément pas pour en rester là. Et je me suis dit, il faut pas que je reste seule. Parce que du coup, ces mecs-là, ils vont vouloir en finir avec moi. Et je me suis imaginé les pires scénarios possibles. J'ai pris le bras d'une fille qui était à ma table, qui n'est pas ma meilleure amie, rien du tout, mais qui était une fille comme ça. Et je les prends par le bras. Je leur dis, ça va pas, il faut que vous m'accompagniez vomir aux toilettes. Et les deux filles ont rigolé en disant, ok, on y va et tout. En pensant que j'étais juste hyper bourrée et que c'était enfin une histoire de plus de boîte, quoi. Et au final, on est arrivé aux toilettes et j'ai poussé toutes les filles qui faisaient la queue. Je me suis enfermée dans les toilettes avec les deux filles, du coup. Donc je voyais flou, je me tenais au mur pour vomir, elles me tenaient les cheveux, mes amis. Enfin, c'était vraiment pas une situation confortable, j'avais honte, quoi. Et au final, je me disais, si c'est qu'une cuisse, bah voilà, je vomis un peu, ça sera reparti comme d'habitude, quoi. Et bah non, bah c'est pas parti, quoi. Et au fur et à mesure, plus je vomissais et plus je sentais mon ventre se tordre et plus j'étais mal. Et plus j'étais consciente qu'il y avait un problème, et je me suis dit, il faut que je rentre chez moi. Tout ce dont je me souviens après, c'est d'être rentrée dans mon taxi, d'avoir fermé la portière et de me retrouver seule dans la voiture d'un inconnu. Le seul souvenir que j'ai dans mon taxi, c'est une situation d'évanouissement. Je m'évanouissais, j'étais incapable de lever le bras, j'étais avachie, la fenêtre ouverte, la tête en dehors de mon taxi, et j'essayais de respirer l'air et de me dire ça va aller, tout va aller mieux, sauf que rien n'allait mieux du tout, et ça s'est même empiré puisque je m'endormais, et par intervalle, et en même temps j'étais consciente qu'il fallait pas que je m'endorme, parce que si le taxi était mal intentionné, bah, il peut faire ce qu'il veut de moi, quoi. Enfin, j'étais en train de paniquer, quoi, en proie à des inconnus et en danger, quoi. L'arrivée chez moi, ça a été quelque chose de très chaotique. Je suis sortie de mon taxi et j'ai pris 5 bonnes minutes avant de réussir à taper mon code. Et j'ai dû pousser la porte, ça a été encore quelque chose de très difficile. Je me rappelle, j'arrivais juste pas à la pousser. Dès que j'ai eu assez de place pour slider d'un côté, je l'ai fait. Et au final, j'avais passé déjà le plus difficile pour moi. J'étais déjà arrivée chez moi. C'est-à-dire que là, je me suis dit, j'ai fait le premier code. Plus personne ne peut entrer derrière moi, à part les gens qui connaissent mon code. Je pourrais m'écrouler là, ici, et il m'arriverait sûrement rien. Mais bon. Et après, il a fallu que je monte les escaliers. Ça a été encore une étape hyper compliquée. Une fois que je suis arrivée devant ma porte, bah évidemment, je me suis rendu compte que j'avais pas mes clés. Donc il était 3h du matin, je sonne comme une folle alliée à ma porte, ma mère toute seule chez moi. Je pense qu'elle a dû avoir très peur, mais elle s'est rendue compte que c'était moi. Elle m'ouvre la porte, elle me regarde. En un clin d'œil, elle s'est rendue compte de l'état dans lequel j'étais. Je me souviens qu'après, je me suis juste mise sous ma couette et j'ai juste dormi. J'étais maquillée, habillée, avec mes chaussures, ah oui, la totale. Et c'est le lendemain que c'est un peu plus compliqué. Le lendemain, je me réveille, donc toujours dans le même état, maquillée, habillée, avec mes chaussures, sous ma couette, et je vois un verre à côté de moi. Et je me suis dit, d'accord, bon, j'ai pris un Doliprane, donc ça allait un peu mieux déjà. Après, je me suis dit, t'es vivante, ça va. Genre, il aurait pu se passer des choses pires, relativise. Et juste, enfin, je me souviens que juste pleurer, ça m'a fait tellement de bien. Et j'ai pleuré pendant une journée. Pendant une journée, j'ai pleuré, et mon premier réflexe, ça a été d'appeler mes meilleurs amis. Et le premier m'a dit, je suis sortie d'un dîner, est-ce que tu peux faire vite, s'il te plaît? Et moi, j'étais là, bon, bah... Enfin, j'ai été extrêmement blessée, je pense, et c'est la réaction qui m'a vraiment choquée. Je suis sortie d'un dîner, fais vite. Mais il a tellement pas pris le temps, en fait, de comprendre, et je pense que c'est ça qui... Je me suis dit que peut-être que c'est pas aussi important que je le pense, en fait. Peut-être que, voilà, donc ça m'a encore plus mis de doute. Le deuxième, je l'appelle, je lui raconte tout de A à Z. Tous les souvenirs que j'ai, les sensations que j'ai ressenties, le fait que j'ai pleuré, que je me sens sale, en fait. Sa première question, ça a été... T'es sûr de t'être fait droguer? T'es vraiment sûr? T'étais pas juste trop bourré? Il y a eu un blanc après le fait qu'il m'ait dit t'es sûr. Il y a eu un blanc parce que ça m'a remis en doute encore une deuxième fois, quoi. C'est mon meilleur ami, donc pourquoi il se demande si moi je suis capable de lui mentir sur quelque chose d'aussi grave? Enfin, en fait, je me suis sentie trahie à cause du fait que les gens ne me croient pas. Je me suis dit, si même mon meilleur ami doute de ma parole, quel intérêt est-ce que j'en parle à d'autres personnes, quoi? Ça sert à rien que je raconte mon histoire jusque-là. Les jours qui ont suivi ont été un peu compliqués parce que j'ai eu malheur de le dire à quelqu'un de mon lycée qui l'a raconté à tout le monde et du coup, enfin, quelqu'un a crié dans la cour un jour « Ah, pas cool de t'être fait droguer vendredi soir !» En fait, je me suis refermée sur moi-même dans le sens où je n'ai plus raconté cette histoire à personne parce que je me suis dit « Je l'ai raconté à 3 personnes, 2 personnes m'ont remis en question ma parole et la 3e l'a raconté à tout le monde, enfin... » Au final, non, je ne pense pas qu'on puisse parler d'amitié dans ces cas-là. Et du coup, j'ai vécu une période de solitude suite à ça, où je me suis dit, écoute, c'est pas de ta faute, t'as fait du mieux que t'as pu, et ça ne se reproduira juste plus. T'arrêtes d'aller dans cette boîte. T'arrêtes d'aller en boîte tout court, t'arrêtes de sortir tout court, parce que si tu ressors, t'auras encore plus peur et tu pourras pas digérer ça correctement. C'est ce que j'ai fait. Et le fait de plus sortir et d'avoir vraiment des temps pour moi où je me disais, là, le vendredi soir, je reste chez moi et je me sens en sécurité... C'était vraiment nécessaire, je pense que le... En fait, j'avais besoin de retrouver un vrai sentiment de sécurité après m'être fait droguer, quoi. You see the alpha kid in class, cuts his kicks out of shoot and ducks, you know. C'était Les années lycées, le 4e épisode, À l'ombre des jeunes filles en pleurs, un reportage de Delphine Saltel réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci aux élèves des 2 lycées qui nous accueillent, à Haute-Paul et à Leslie Riowal, leur professeur, c'est Jeanne Delecroix, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et Nino Lima, notre stagiaire.